il faut se lancer. Même si l'endroit où on veut aller, même s'il est loin, même s'il est compliqué, même s'il y a peu d'images qui seront ramenées du périple, en tout cas, il y aura déjà cette expérience de vie. Elle est sincèrement importante et intéressante pour qu'on puisse déjà prendre goût en fait à cette aventure. Et à partir du moment où on commence à prendre goût à un voyage photographique, hein, à un déplacement, la photo devient à ce moment-là, je pense, vraiment intéressante. Encore une fois, c'est pas un métier chiant, quoi. On s'emmerde pas. Enfin, je veux dire, un photographe ne s'emmerde pas. Enfin, en tout cas, quand on part en reportage, on s'emmerde pas. On peut pas s'emmerder, c'est pas possible.
Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Didier Bizet, un photographe ayant travaillé dans la publicité qui aujourd'hui sillonne le monde pour réaliser des reportages publiés dans la presse française et internationale. Dans cet épisode, il va partager de très bons conseils pour apprendre à travailler pour plusieurs magazines. On parlera également du marché de la presse à l'international, de comment trouver de bonnes idées de reportages et enfin du marché de l'édition pour un photographe. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Didier et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Didier, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, donc je m'appelle Didier Bizet. Je suis photographe documentaire, mais pas que. Mais mon activité principale tourne autour de la photographie documentaire aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de comment tu en es venu à devenir photographe documentaire ?
Alors c'est un parcours non pas atypique, mais un parcours que je pense beaucoup de gens ont dû suivre, parce que je suis évidemment pas le seul à avoir fait ça. J'en connais d'ailleurs certains qui ont à peu près le même parcours que moi. Moi j'ai un parcours un petit peu différent du photographe classique qui a fait son école de photographie, etc. J'ai fait les Beaux-Arts, donc il n'a strictement rien à voir avec la photographie. Quoique, aux Beaux-Arts, moi, j'ai fait un petit peu à l'époque d'Argentique, donc il n'y avait pas un cursus photographie, mais en tout cas, tous les médiums étaient permis. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai un peu commencé la photographie. Et ensuite, j'ai travaillé en agence de com, en agence de pub pendant longtemps, pendant 25 ans, en tant que directeur artistique et directeur de création. Voilà. Et puis, donc, suite à ça, j'ai abandonné parce que je crois que la pub est réservée, en tout cas, à des gens, peut-être à une génération aujourd'hui de plus en plus jeune. Et du coup, voilà, j'ai eu un certain ras-le-bol en fait de ce métier, même si j'y ai pris du plaisir. Donc j'ai abandonné pour me consacrer à la photographie et qu'à la photographie.
D'accord, super. Moi, je connais ton travail parce que pendant un temps, on était dans la même structure de diffusion et je suivais à chaque fois avec intérêt ce que tu faisais parce que tu arrivais à entre guillemets, poncer, si on peut dire, un sujet. C'est-à-dire que tu partais sur des histoires au long cours, des sujets documentaires qui étaient super intéressants et tu arrivais à le faire vivre dans plusieurs types de médias. D'ailleurs, on avait parlé de ça avec... ça me rappelle un petit peu ce que fait Frédéric Noy, que tu dois connaître, qui a un petit peu la même logique. Et je pense qu'il y a peut-être des choses qui reviendront avec ce que tu vas nous dire, qui dit aussi dans son épisode, dans le podcast. C'est quoi, toi, ta vision de la photo en tant que reportage ? Comment tu travailles au quotidien, peut-être ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça ?
Quand j'ai démarré la photo, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 7 ans, il y a 8 ans, je me considère encore comme un photographe presque jeune, on va dire, enfin en tout cas dans l'expérience. Quand je suis arrivé sur le marché de la photographie, voilà, j'avais 48, j'avais 49 ans, un peu tard, évidemment. Et je pense que lorsqu'on arrive sur un marché, que ce soit la photographie, peu importe, on n'a pas intérêt, en tout cas, à laisser faire les choses, en fait, de manière assez... en tout cas, il faut se dépêcher. Voilà, ma réaction, quand je suis arrivé sur le marché, je me suis dit, il faut être opérationnel très rapidement. Il te reste finalement assez peu de temps, c'est un peu malheureux à dire, mais c'est comme ça, quand on n'a pas 20 balais ou 30. J'ai intérêt, en tout cas, si moi je veux réaliser des belles choses, des choses qui m'intéressent évidemment, et vivre de la photo évidemment, je dois être assez opérationnel et concrétiser mon métier, mon travail très rapidement. Donc mon objectif et ma stratégie a été d'essayer de tenter d'avoir des publications le plus vite possible. Et ne pas attendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et de se former, etc. Bref. Donc mon objectif a été celui-ci. Donc je suis parti assez rapidement au reportage, évidemment de mon plein gré, hein, donc j'ai financé, etc. J'ai écrit, j'ai financé, j'ai cherché, j'y suis allé, et à mon retour, donc j'ai pu publier. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est avoir une publication, ou deux, trois, très rapidement. Et quand je parle de publication, ce n'est pas une petite image, une petite vignette qui sort à gauche, à droite, dans un quart de page, en quatrième ou en troisième de couve. Non, ce n'est pas ça. C'est un 6 pages, un 4 pages, un 10 pages, un 12 pages, peu importe. Mais en tout cas, d'avoir un travail conséquent qui soit publié, voilà, dans sa globalité, j'ai envie de dire.
Est-ce que tu as compté le nombre de publications que tu as eues jusqu'à maintenant ?
Non, je ne les ai pas comptées.
À 500 près ?
Non, je ne sais pas, mais ouais, de temps en temps, je vais évidemment sur mon site régulièrement pour mettre à jour mes publications. Ouais, j'en ai un certain nombre, je suis assez content. Je ne pensais pas qu'il y a 10 ans, j'allais avoir tout ça en si peu de temps, mais après voilà, c'est l'acharnement. Hein. On a rien sans peine. C'est du travail. Je travaille beaucoup, j'insiste. Je fais en sorte que, voilà, malgré parfois évidemment des incertitudes, des inquiétudes évidemment, dues au marché, dues aux problématiques de la photographie et de l'économie de la photographie aujourd'hui. Évidemment, il faut pas, enfin bref, voilà, tu connais, il faut pas baisser les bras, même si c'est difficile. Et puis garder évidemment toujours un certain espoir, en tout cas, de pouvoir continuer, faire encore de nouveau une nouvelle histoire, les unes après les autres. Donc ouais, c'est dur, c'est difficile, c'est dur, mais c'est comme ça.
Mais ça fonctionne quand même, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pour ça que je voulais te faire venir aussi sur le podcast, parce que j'aime bien donner la parole à des gens qui aiment ce qu'ils font, ce qui est déjà important, peut-être un peu le socle de base pour un photographe, mais aussi qui arrivent à correctement en vivre. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu vis que du reportage, ou où est-ce que tu en es à peu près ?
Quand j'ai commencé, j'étais, je pense, à 200 ou à 300% de mes capacités de travail. Et je devais, il me semble, à peu près, ouais, en vivre, on va dire, quasiment à 100%. Le Covid est arrivé par là, et le break a été assez compliqué. Hein. Je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde. La presse va moins bien qu'avant, hein, même si ça fait pas longtemps que le Covid a disparu. La presse ne va pas très bien, les prix ont chuté. Juste pour te dire que 50% des magazines dans lesquels j'ai publié avant le Covid, alors ça date peut-être d'un peu plus avant, ont disparu. Donc quand je reprends en fait mes premières séries que j'ai publié, à grosso modo, 50% des magazines de l'époque ont disparu. Géo Finlande a disparu, Géo Russie a disparu, rien à voir avec la guerre d'ailleurs. Bref, voilà, il y a des tas de magazines qui ont disparu, et finalement, il en reste pas tant que ça. Pas tant que ça.
Et comment tu vois l'avenir justement avec cet état de fait ?
L'avenir, je le sens plutôt, on va dire plutôt optimiste. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est une génération papier. Et je ne dis pas que le papier a une fin. Hein. On n'a jamais vu autant de livres, voilà, photos, enfin de livres en tout cas en général, qui sortent aujourd'hui. Des magazines, il y en a des nouveaux qui se créent. Mais le médium du web, évidemment, c'est évidemment en fait l'avenir. C'est pas que c'est l'avenir, c'est qu'on est déjà dedans, évidemment, à 100%. Mais le médium du net, enfin, évidemment, c'est le média de demain. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est sur un téléphone, mais demain, en tout cas, certains l'ont déjà, on sera déjà, enfin, les informations, on les recevra sur une montre, on les recevra dans un casque, dans des lunettes. Et c'est ça, demain, c'est pas autre chose. Le papier est un certain luxe. Hein. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les magazines photos, 6 mois par exemple, ou Polka, en fait, il n'y en a pas tant que ça finalement. C'est du luxe. C'est des magazines qui sont relativement, j'ai pas envie de dire cher parce que 6 mois n'est pas cher, mais c'est une certaine somme quand même à débourser. C'est un produit de luxe, ouais, évidemment, bien sûr. Mais voilà, c'est, en fait, voilà, y a un truc qui est assez bizarre, c'est qu'on pense que la photographie doit rester sur le papier. Alors certes, c'est plus esthétique et plus, comment dire, plus avantageux de visualiser une image sur du papier. Mais ça, c'est peut-être aussi un discours de vieux, en tout cas. Et il y a 20 ans, quand 20 ans ou 30 ans, lorsque le web est arrivé, on a pris panique et on s'est dit, merde, en fait, tout ça va disparaître sur des écrans à la con. Et oui, ça l'est vraiment, tout ça a disparu. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix, c'est comme ça.
Je me demande si c'était pas une phrase un peu célèbre là, du PDG de Kodak à l'époque qui disait, quand un de ses employés a débarqué dans son bureau parce qu'il venait d'inventer l'appareil numérique, et le mec lui a dit... T'es con ou quoi? Déjà, tu vas savonner la planche, on pourra plus vendre de pellicules en plus, mais personne n'aura envie de regarder des photos sur un putain d'écran. Et je sais pas si t'as suivi, mais je crois que c'était cette nuit, ou la nuit dernière, il y a eu une keynote d'Apple, et Apple a annoncé la sortie de leur casque, leur nouveau casque. Alors c'est plus que de la réalité virtuelle en fait, c'est un casque, tu le mets sur les yeux, et puis tu peux projeter des écrans devant toi, donc en fait, plutôt que d'avoir un ordi 27 pouces, t'en auras 12 si tu veux. Et tu vois, ça ouvre des possibilités de dingue sur tout ça. Donc effectivement, après, est-ce que toi, le fait que tu aies commencé assez tard dans la photo, sachant que tu étais la deuxième personne que j'interviewe cette semaine qui a commencé tard, je pense que c'est un pattern aussi, il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens peut-être même qui se lancent, pas dans le schéma s'il y avait un schéma traditionnel, mais tu sais, tu fais une école à 20 ans et tu deviens photographe, etc. Toi, tu as eu une vie d'avant, en plus dans la pub, dans un environnement où tu t'as côtoyé, je pense, un écosystème où tu comprends ce que c'est l'offre et la demande, l'argent, etc. Est-ce que ça a influé dans ta vision de voir les choses, justement, en dehors du fait que tu comprends bien que le timer, il est bien lancé, qu'il faut se lancer là tout de suite et pas perdre trop de temps?
Ouais, ça m'a servi, effectivement. Enfin, y a... Bon, déjà, les Beaux-Arts, ça m'a servi. Parce que c'est une école où on apprend à trouver des idées. Et sans idées, il n'y a pas de travail. Donc ça, c'est une première chose. Et la pub, évidemment, c'est le même objectif, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a pas de travail. Et s'il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a pas de conviction. S'il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a pas d'impact. Et l'idée, avant tout, pour moi, c'est la chose la plus essentielle qui existe, qui doit faire fonctionner en fait une série photographique, par exemple. Donc effectivement, oui, ça m'a servi. Moi, j'entreprends mes reportages. Alors, je dis pas qu'ils sont tous aussi efficaces les uns des autres, mais en tout cas, ma vision de départ est celle. Alors, elle est financière. Enfin, je veux dire, elle est économique. Hein, c'est clair. On fait un métier de photographe. On n'est pas là pour se faire plaisir. Je vais être un petit peu dur, évidemment, mais il faut bouffer, quoi. Donc il y a un moment donné, quand on fait de la photo, on s'adresse à quelqu'un. Enfin, en tout cas, si on fait de la photo juste pour l'exposer chez soi, dans son garage, Bref, enfin, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut l'image, il faut qu'elle soit vue. Alors, soit elles sont vues en galerie, mais ce n'est pas mon cas, soit elles doivent être vues en magazine. Et mon principe au départ, enfin, c'est que j'ai toujours essayé de trouver des histoires qui parlent presque à tout le monde. En tout cas, c'est un peu toujours mon but, quoi. L'idée, c'est d'arriver en fait à créer des histoires, à photographier des histoires pour que déjà je puisse avoir un maximum de publications. Voilà, c'est comme ça, parce que aujourd'hui, avec une publication, on ne vit pas. Avec deux, avec trois, on ne vit pas. Et on peut peut-être commencer à vivre à partir de 3 ou de 4 ou de 5. Donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Et pour avoir de larges publications de la même série, évidemment, il faut cibler un public assez large, évidemment, un public assez large, un public assez généraliste. Voilà, ça c'est un peu ma façon de voir les choses, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui m'intéressent, mais je ne les ferai pas parce que je sais que ça sera publié dans un quotidien et non pas dans un magazine, et puis ça sera publié une fois et puis voilà, donc la rentabilité elle n'est pas là. Alors certes, il y a plein de photographes qui ne seront pas d'accord avec moi avec ce principe-là, mais c'est ma façon de voir les choses. Le métier de photographe, c'est un métier comme un autre, il faut bouffer, et en même temps, et si on se fait plaisir, c'est génial.
Ouais. Bah, déjà, ce qui est cool, c'est que tu n'es pas forcément besoin de faire autre chose que de la photo documentaire. Tu bosses un peu en photographe corporate, tu fais des mariages, ce genre de choses, ou pas du tout?
Alors si, j'ai besoin de faire autre chose, évidemment, hein, c'est ce que je te disais, depuis le Covid, c'est un peu plus mou, j'ai envie de dire, l'énergie est moins là, enfin, c'est-à-dire que voilà, les rédactions sont un peu moins prenantes, un peu moins présentes, prennent peut-être un petit peu moins de risques, donc je ne fais pas que ça, non, je fais alors du corporate, j'en fais un petit peu, mais assez rarement. Ça m'arrive de faire quelques portraits, puis après, voilà, ça m'arrive également de travailler à côté pour de la presse, pour du livre, mais dans des registres qui n'ont rien à voir, qui sont de la déco, choses comme ça.
D'accord. On va parler dans un moment de l'édition et des livres, parce que tu as une expérience là-dedans, et ça peut être super intéressant d'en parler. Pour venir sur la question des idées, tu as mis le doigt sur un truc qui bloque beaucoup de gens, hein. Comment tu fais, toi, pour trouver une bonne idée? Comment tu détermines que c'est une bonne idée? Et comment tu fais vivre cette idée?
Alors, c'est difficile de savoir si c'est une bonne idée. Mais, comment expliquer en quelques mots? En fait, par exemple, lorsque je suis parti faire... Je suis parti faire un reportage à 3-4 ans sur un paquebot qui était, à l'époque, le plus gros paquebot du monde. Alors, ça avait déjà été fait. Enfin, il y a déjà eu des photographes qui avaient déjà travaillé sur cette thématique. Bref. Mais quand j'ai appris que c'était le plus gros bateau du monde avec 9000 personnes à bord, juste ce chiffre de 9000 personnes à bord, il m'a tué. Enfin, il m'a tué, il m'a inquiété. Enfin, il m'a fait marrer aussi. Et évidemment que c'est une bonne idée. Il n'y a qu'un bateau comme ça dans le monde. Et en plus, aujourd'hui, l'écologie, bref, est un sujet. Donc, évidemment, il fallait y aller. Enfin, donc, voilà. Pour moi, c'est une idée. Il y a 9000 personnes à bord sur un seul et même bateau. 9000 abrutis comme ça qui se baladent sur un bateau. J'en faisais partie, hein, mais qui se baladent comme ça sur un bateau. Ouais, c'est une idée. Ouais, c'est une idée. C'est une idée d'actualité sociale, écologique. Et une idée, pour moi, une bonne idée, c'est une idée qui va séduire un grand nombre de personnes. Voilà. En tout cas, si elle séduit un lectorat qui se limite à un petit quotidien de région, par exemple, non. Enfin, pour moi, alors ça peut être une bonne idée, évidemment, hein. Mais ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt, en tout cas. pour sa carrière, pour son travail, pour savoir où c'est qu'on en est, et pour sa visibilité, évidemment, et puis pour la finance également.
Ouais, tu veux dire que le niveau de rentabilité d'une idée dépend, on va dire, de son universalité, de la capacité à se projeter et à séduire un maximum de gens.
Oui, évidemment, évidemment. Mais c'est malheureusement un petit peu comme tout, c'est-à-dire que le cinéma, voilà, en fait, si tu sors un film et qu'il est projeté dans une salle de cinéma d'art et d'essai, dans un petit quartier d'une ville moyenne, évidemment, compliqué. Même si le film est intéressant, je dis pas. Mais par contre, s'il est projeté dans une quinzaine de salles, et tout de suite, ça change. Donc, pour moi, ouais, il faut viser un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut, il faut être peut-être un peu plus ambitieux que c'est, voilà, il faut être un tout petit peu plus ambitieux. Voilà, je pense. C'est un peu comme ça, quand je suis arrivé sur le marché, je me suis dit que j'avais pas le choix, j'avais pas non plus 40 ans devant moi pour devenir photographe. Donc, il faut être tout de suite ambitieux. Il faut pas hésiter à, comment dirais-je, à se projeter, peut-être voir un petit peu plus loin, quitte à se planter, évidemment, mais quitte à rêver en même temps. Enfin, je veux dire, on peut aussi rêver en se disant, tiens, je vais aller au fin fond de tel pays et essayer de ramener une belle histoire. On le fait ou on le fait pas, mais en tout cas, je trouve que explorer comme ça des idées un petit peu farfelues, compliquées, c'est bien. En tout cas, c'est bien pour sa photo, c'est bien déjà pour son expérience de vie, tout à fait. Après, moi, la photographie, évidemment, c'est un métier, mais c'est aussi une expérience de vie. C'est une autre façon de vivre, c'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon de m'informer.
Ouais. Et le fait d'avoir eu comme ça une quarantaine d'années de vie avant, je pense que comme beaucoup de gens, tu as dû aussi vivre des choses parfois compliquées, des obstacles, des échecs. Dans quelle mesure ça t'a apporté quelque chose pour cette vie de photographe? T'as moins peur de l'échec? T'as moins peur de te planter?
Non, je pense que... Non, non, j'ai toujours peur de me planter, évidemment. Alors c'est vrai que c'est une chose assez délicate de savoir ou ne pas savoir si la prochaine série, si le prochain travail sera bien ou pas. Enfin, c'est assez compliqué de savoir. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un petit peu un défaut que j'ai, hein, évidemment, par rapport à mon passé en pub, où tu as 3 jours pour faire une campagne, pour écrire un film, par exemple. Tu n'en as pas 4, tu en as 3. Et puis tu as intérêt que le film soit bien, en tout cas, soit bien décrit, soit bien storyboardé. Il ne faut pas se planter, parce que le client, il ne va pas te demander 3 fois de changer les choses. En tout cas, de recommencer à zéro. Donc voilà, moi, quand j'entreprends une série, c'est un peu de cet ordre-là, quoi. J'ai pas trop intérêt à me planter, donc je fais en sorte d'être à peu près sûr de moi. Et vu que je ne suis pas quelqu'un de très patient, je ne travaille pas très très longtemps sur les séries. Enfin, le long cours, pour moi, c'est assez, rare. Passer 6 mois, 1 an sur une histoire, c'est pas tout à fait ma façon de voir les choses. Je suis pas très patient.
Moi, je te trouve quand même assez patient sur ta façon de bosser quand même, parce que tu peut-être pas en prise de vue effectivement, mais en tout cas tu as l'air d'être un sacré bosseur sur tout ce qui est diffusion de tes sujets et puis même préparation, j'imagine, parce que ça se prépare pas en 2 heures un sujet sur lequel tu pars. Tu as des conseils à partager sur l'organisation, peut-être sur la productivité ou sur le comment tu bosses au quotidien?
Non, j'ai pas spécialement de conseils. Enfin, j'ai pas spécialement de conseils, c'est pas tout à fait vrai. Il faut se lancer. Enfin, après, ça dépend des conseils à des gens qui débutent. Peut-être il faut se lancer. Même si l'endroit où on veut aller, même s'il est loin, même s'il est compliqué, même s'il y a peu d'images qui seront ramenées du périple, En tout cas, il y aura déjà cette expérience de vie. Elle est sincèrement importante et intéressante pour qu'on puisse déjà prendre goût en fait à cette aventure. Et à partir du moment où on commence à prendre goût à un voyage photographique, hein, à un déplacement, la photo devient à ce moment-là, je pense, vraiment intéressante. Encore une fois, c'est pas, on part, c'est pas un métier chiant, quoi. On s'emmerde pas. Enfin, je veux dire, un photographe ne s'emmerde pas. Enfin, en tout cas, quand on part en reportage, on s'emmerde pas. On peut pas s'emmerder, c'est pas possible. Donc, il faut pas y aller, je pense, avec l'écueil de savoir si on va se planter ou pas, d'avoir peur ou de pas pouvoir amener de bonnes images. Il faut y aller. Je pense que le confort et le fait de savoir qu'on se sent bien quelque part à faire des images, les photos seront bien de toute façon. Il faut après bon évidemment il faut arriver à faire des bonnes photos, hein, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais je compare souvent en fait mes reportages. Enfin, quand je pars en reportage, j'ai toujours un peu, comment dirais-je, une affiche de cinéma dans la tête. Et pour moi, quand on parle de l'image clé, la double page d'ouverture, etc., en presse, c'est pour moi comme une image, c'est comme une affiche de cinéma. C'est-à-dire qu'elle résume, elle impacte, il y a un titre, il y a un sujet, enfin bref, il y a une chromie, etc. Donc c'est pour moi que c'est comme une affiche de cinéma. Et puis une fois qu'on a poussé la porte du cinéma, une fois qu'on a vu l'affiche, on rentre dans l'histoire et après, voilà, on a les images. Mais et j'aime bien, en fait, quand je pars en reportage, j'aime bien trouver cette image. Évidemment, elle est importante parce que c'est la page d'ouverture, c'est la photographie qui parle, qui résume, qui synthétise, qui explique. Elle est importante. Donc, j'adore trouver cette image. Voilà, je prends beaucoup de temps. Enfin, je prends beaucoup de temps. Je la cherche pas non plus tout le temps, mais en tout cas, elle est présente dans mon esprit et elle doit être faite.
Ouais. C'est vrai que c'est un truc qu'on apprend très tôt, ça, la double page d'ouverture qui donne ensuite l'ouverture à tout le reste. C'est vachement intéressant. C'est un peu comme tu vas vivre ton reportage comme dans un film, en fait. Tu vis ton histoire en tant qu'acteur de ton reportage.
Un peu, ça peut être comme ça parfois, ouais, par moment, ouais. Ouais, sans aller jusqu'à là, parce que après, je reste, enfin, quand même, les pieds sur terre, et le but, évidemment, est de ramener des images, hein, des bonnes images, qui soient bien cadrées et qui ont un peu de sens. Mais c'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans un endroit qui est magnifique ou pas, d'ailleurs, mais bon, peu importe, on a quand même de la chance d'y être. Donc voilà, c'est important de le préciser. On a la chance d'être quelque part dans un endroit idyllique et de faire des images. Donc, il faut les faire bien. Et puis si en plus on peut vivre vraiment le moment vécu sur place avec les locaux ou pas, bref, c'est important. Je pense que quand on est en déplacement, il faut y être à 200, à 300%. J'enregistre, je prends des notes. J'observe évidemment tout le temps, beaucoup, même si je photographie pas, mais j'observe, j'essaie de retenir des choses.
Ouais. Je sais pas si ça te le fait aussi, mais moi j'ai l'impression que, enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs, mais quand tu vois notre boulot d'indépendant, au final, on a réellement que 5 à 10% de notre temps qui est, et encore, c'est peut-être assez gros comme chiffre, de vraiment utiliser à faire des photos, tu vois, ou à partir en reportage, ou être sur le terrain. Le reste, c'est essentiellement du démarchage, du personal branding, du marketing, etc. Et du coup, moi, à chaque fois que je pars, déjà, je pars de moins en moins, parce que j'essaie de faire de plus en plus de choses, de mieux rentabiliser ces voyages, donc j'en fais moins, mais pour les faire mieux. Et donc, quand je suis sur le terrain, ne serait-ce que pour 5-10 jours, je me dis, putain, je suis presque en vacances, tu vois. C'est le moment fun. Je sais pas si ça te fait ça, toi aussi.
Un petit peu, ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'on passe finalement pas beaucoup de temps à photographier. Ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Alors moi, j'ai pas connu la photographie d'avant, même si j'en faisais un petit peu, bref, mais je n'ai pas connu la photographie d'avant. Je pense qu'avant, évidemment, on faisait beaucoup plus d'images qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, par rapport au temps passé qu'on l'utilise à faire autre chose, que ce soit de la compta, de l'archivage, etc. Oui, c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que, comme tu dis, lorsqu'on est sur place à photographier, ouais, c'est un bain de jouvence, quoi. C'est une récréation, et c'est parfois assez surprenant. On se dit, ah ben tiens, je suis vraiment en train de faire des images, quoi. C'est la première fois de l'année. Enfin, c'est alors que je suis photographe. Effectivement, ouais, c'est assez bizarre. Ouais.
Et alors, tu disais, il y a la photo d'avant, c'est l'époque un peu dorée que tout le monde parle, enfin, dont tout le monde parle avec nostalgie, parfois sans même l'avoir connue. Ce côté où tu étais envoyé en commande, ton téléphone sonnait, ton fixe sonnait, puis on t'envoyait avec un billet d'avion déjà payé pour aller à l'autre bout du monde faire un truc, et puis quand tu revenais, c'est même pas toi qui gérais ta compta ou tes IPTC ou tout ce truc. Toi, le fait de ne pas avoir connu cette période-là, professionnellement parlant, ça t'a permis de mieux appréhender le fait de devoir ben, produire toi-même les sujets, de devoir pas attendre que ton téléphone y sonne pour partir, et en quelle mesure tu trouves que c'est un truc qui handicape aujourd'hui les gens? Même pas forcément que les gens qui ont connu cette époque-là, hein, et qui doivent vivre cette transition, mais les gens qui se lancent et qui ont été un peu bercés par ces histoires, tu vois, de l'époque Gamma, Sigma, etc.
En fait, il y a deux choses. Je pense que les gens qui ont connu cette époque-là, c'est assez, je pense, difficile pour eux. C'est-à-dire qu'ils partaient tous les jours, bref, plutôt très bien payés. Aujourd'hui, l'époque a un petit peu changé. Il n'y a plus de commandes, ou en tout cas, ce ne sont pas les mêmes qu'avant. Pas autant, évidemment, malheureusement. Je pense que c'est un peu dur pour eux parce que... Ils étaient salariés, ils avaient un planning, un peu comme un salarié aujourd'hui, enfin bref, avec un planning, on commence le lundi, on finit le vendredi ou le dimanche. Et du coup, bah, voilà, il n'y avait plus qu'à, façon de parler, évidemment. Aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui se sont mis à la photographie après cette époque-là, comme moi et comme beaucoup, et on n'a pas connu évidemment cette période, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix. À partir du moment où on décide d'être photographe, presse évidemment, on n'a pas le choix. C'est soit on attend à côté de son téléphone, et même si on passe des coups de fil, on envoie des mails, on sait très bien qu'on n'aura pas 25 commandes dans l'année. Enfin, c'est assez rare, enfin, il me semble en tout cas. Quand je dis commandes, c'est des bonnes commandes qui permettent en tout cas de pouvoir générer un peu d'argent. Donc on n'a pas le choix, il faut y aller quoi. Il faut y aller, trouver des idées et puis avant tout se faire plaisir. Enfin, c'est ce que je dis, c'est que ça doit rester un plaisir. Si on commence un petit peu à se fatiguer et que le plaisir devient un petit peu tristounet parce que ça devient cher, compliqué de partir, etc., de ramener des images et surtout après d'essayer de les vendre. Ouais, c'est pénible, mais qui a dit que la photo était que un métier facile et plaisant? Non, c'est dur la photo. C'est dur, c'est compliqué. Il faut être un peu ambitieux. Il faut y croire. Et il faut en faire. Voilà, il faut en faire.
Tout ce que tu viens de dire, ça touche pas que la photo de presse, j'ai l'impression, ça touche aussi beaucoup l'univers de l'édition, avec toujours ce que tu as dit au début sur le fait qu'on est encore dans cette génération de papier. Tu as dit, il n'y a jamais eu autant de bouquins sur le marché, et effectivement, quand tu vas sur des salons du livre, ce genre de trucs, tu vois la quantité pléthorique de bouquins qui sortent tous les ans. Tu vois, sur mon secteur qui est la défense, j'hallucine tous les jours de voir autant de bouquins qui se lancent, de témoignages d'anciens militaires, de machin de ça. Et pour au final des quantités qui ne sont pas excessives quoi, en termes de tirage, parce que le marché reste limité, surtout dans les marchés de niche, et la photo est un sacré marché de niche, avec des produits qui sont assez chers, parce que produire un livre photo, enfin tu l'as déjà fait, ça coûte 4 ans et demi. C'est quoi ta vision toi de ce marché de l'édition et peut-être même de l'auto-édition? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est un truc qui a vraiment un intérêt sur le long terme, tu penses?
Alors, je dirais pas que c'est une mode. Je l'explique comme ça. C'est-à-dire que il y a eu l'argentique. Le numérique est arrivé. Des milliers, des millions, je ne sais pas, de gens se sont mis à la photographie, qu'ils soient amateurs ou pros, devenus pros. Il y a eu, il y a aujourd'hui trop d'images. Il y a beaucoup trop d'images, il y a trop de choses. En fait, on n'arrive plus en fait on n'arrive plus à se restreindre et en fait, on n'arrive plus à apprécier finalement en fait tout ce qu'on voit, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on aperçoit. Il y a trop de choses. Lorsque le numérique est arrivé, beaucoup de gens se sont mis et se sont dit, tiens, je vais faire du reportage, du documentaire, parce que c'était peut-être un peu la chose la plus accessible par rapport, par exemple, à la photographie de mode, où là, c'est un métier encore différent, où c'est de la photographie de studio, bref, il faut avoir une patte, enfin, c'est compliqué, c'est plus délicat peut-être, en tout cas plus technique. La photographie de reportage, je ne dis pas qu'elle est simple, hein, évidemment, mais elle est plus accessible facilement à n'importe qui. Il suffit de prendre un billet d'avion, trouver un sujet, même si c'est un sujet pourri, on y va, même si on rate le reportage, en tout cas c'est faisable, c'est accessible. Donc il y a eu beaucoup de gens comme ça qui se sont lancés dans la photographie à l'époque du numérique. Et je vois qu'aujourd'hui, en fait, que les canaux, en fait, sont de plus en plus restreints. La presse a diminué, la mode est de plus en plus compliquée. Bref, en fait, tous les canaux de la photographie sont de plus en plus restreints et compliqués. Il y a de moins en moins d'économies, moins en moins d'argent. Et du coup, peut-être que la réaction est de se dire, bah, finalement, je vais peut-être plutôt me déplacer en tant que photographe auteur et moins documentaire, et peut-être faire un travail un peu plus personnel. Mais sauf qu'il n'y a pas de place, en fait, pour le travail personnel, à part peut-être un peu dans la presse, quelques supports le réagissent en publiant des travaux un peu personnels. Après, bon, il y a les expos, mais c'est encore autre chose. Et du coup, il reste quoi? Il reste le livre, en fait, qui est un canal de diffusion extrêmement intéressant, important. Et quand on a un travail personnel, à part le bouquin, il n'y a rien d'autre. Donc, il y a de plus en plus de gens comme ça qui, évidemment, se mettent à faire des livres. Et en plus, c'est, comment dire, bon, certes, c'est un livre est coûte très cher, mais en tout cas c'est faisable. En tout cas, si on n'est pas très connu et par contre on a des magnifiques photos et un sujet qui doit être publié parce que voilà le résultat est génial, il y a toujours possibilité de faire un livre auprès d'un éditeur. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est devenu un canal extrêmement important parce que il n'y a pas d'autre possibilité de pouvoir diffuser en fait des images. Il n'y a pas des centaines de possibilités. Et puis ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est relativement facile de fabriquer un livre. En dehors évidemment du prix que ça coûte, mais c'est pas très compliqué. On peut le faire dans sa cuisine, voilà, avec soit on va chez Blurb, bah, bref, et tout est automatisé. Bon bref, comment dirais-je, le livre sera pas génial, mais en tout cas il sera là, il aura le voilà, il sera fabriqué. Ou soit on passe par un éditeur, mais en tout cas l'accès au livre n'est pas si compliqué que ça. Il y a une quarantaine d'années, il y avait finalement très peu d'éditeurs, il y avait les gros, c'est tout, les Hachette, les Gallimard, qui produisaient des livres de photographie, mais il n'y en avait pas tant que ça non plus. Et évidemment, l'accès en fait l'accès à ces éditeurs était compliqué. Et puis c'était toujours les mêmes photographes, c'était les photographes très connus. Bref. Et aujourd'hui, en fait, c'est une façon de pouvoir diffuser des images. Et ce qui est bien, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Donc tout le monde a sa chance.
Tout le monde a sa chance, mais est-ce que c'est pas, il n'y a pas un effet un peu plus loterie qu'avant, dans le sens où à l'époque, moins de gens pouvaient y accéder, mais peut-être que le retour sur investissement était peut-être un peu plus direct, dans le sens où justement il n'y avait pas cette concurrence, entre guillemets. Et tu vois, je pense plus à la logique de, au final, dans le marché du livre, enfin dans la chaîne de production du livre, tu le sais, l'éditeur, enfin, c'est pas l'auteur qui prend le plus gros de pourcentage, en général, c'est entre 5 et 10% du prix du bouquin. Le gros du prix du bouquin, le gros des revenus, des recettes vient surtout pour l'imprimeur, l'éditeur et puis le diffuseur ou distributeur et le libraire. Au final, est-ce que le fait que justement les éditeurs soient... Enfin, il y a une vraie hype, j'ai l'impression. En plus, les réseaux sociaux comme TikTok, il y a plein de... Tu vois, on parle des BookTok, des Book TikTokers, là, les influenceurs qui se disent, putain, c'est bien les bouquins, en fait, ils font des TikTok qui deviennent viraux, et puis les éditeurs ne comprennent pas pourquoi ils vendent 4000 livres d'un coup. Et puis le fait que les éditeurs, il y en a qui sont passés dans le podcast d'ailleurs, et qui disaient, oui, nous, on aime bien avoir de nouveaux auteurs régulièrement et tout, mais ça donne quand même une impression que pour 9 nouveaux auteurs, il y en a un seul qui va vraiment percer et gagner un peu d'argent, tu vois, les droits d'auteur. En plus, c'est payé qu'une fois par an, c'est payé en droits d'auteur, pas forcément salaire, enfin, donc carte de presse, t'oublies pour la photo. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu loterie qui fait que ça reste quand même un gros boulot, ne serait-ce que faire l'editing d'un livre, l'écriture, même si tu es un auteur, même si tu es un éditeur qui va t'aider, t'assister, tu as quand même du temps à passer dessus. L'énergie, est-ce que derrière il y a un vrai retour sur investissement qui légitime ça?
Non, en fait, il y a deux choses. Il y a les photographes qui pensent que, enfin, qui savent qu'aujourd'hui, faire un livre, c'est avant tout diffuser son travail, se faire plaisir, concevoir un bel objet pour qu'il existe, pour la mémoire, peu importe. Et ils savent très bien que le but et uniquement de faire un bel objet qui soit vendu en librairie. Point. Et puis après, il y a les autres photographes qui pensent que faire un livre aujourd'hui, c'est une source de revenus. Et lorsque le livre ne se vend pas si bien que ça, lorsque le livre atteint difficilement ses 300 ou ses 400 ventes, hein, parce que généralement, ça ne va pas au-delà, ils se disent... Eh ben merde, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné quoi? 2 € par bouquin. Et la réalité, ouais, évidemment, elle est là, quoi. C'est-à-dire que, mais ça, comme depuis toujours, hein, les gens qui gagnent leur vie avec un bouquin, c'est parce qu'ils en ont vendu 100 000. Donc avec 400 ou 600, ben évidemment, on va pas très très loin. Donc il faut pas, comment dirais-je, un message. Je pourrais éventuellement lancer un message aux photographes, en tout cas pour ceux qui pensent que c'est un moyen un moyen économique, un moyen intéressant d'avoir une source d'argent. Non, non, c'est complètement faux. Enfin, à moins de vendre son bouquin à 4 ou 5 000 minimum exemplaires. Mais ça, c'est qui fait ça? Personne. Donc oui, effectivement, mais ça, c'est évidemment dû à la concurrence. Il y a quoi? Je crois qu'il y a entre 2 et 3 bouquins de photos qui sortent par jour. Donc c'est gigantesque, c'est diabolique, ça fait peur et en même temps ça prouve que l'intérêt du livre, elle est bel et bien là, elle existe. Donc ça c'est bien, en tout cas c'est positif. Mais oui, malheureusement, ouais, on fait pas un bouquin pour peut-être pour la gloire un peu, mais c'est tout.
Ouais. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi. Il y a quelqu'un de Dave Scourbiac qui est passé dans le podcast pour parler justement de ça et qui mettait vraiment le doigt et l'accent sur ça, sur le fait qu'on crée un objet qui reste dans le temps. Mais il faut jamais oublier aussi que c'est un peu comme. Tu sais, moi j'aime bien cette image, c'est un peu comme la ruée vers l'or. C'était quoi, au 19e siècle, hein, aux États-Unis, où en gros, quand il y a eu la ruée vers l'or, les gens qui gagnaient vraiment de l'argent, c'était pas les chercheurs d'or, c'était les mecs qui vendaient les pelles. Et quelque part, l'édition, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, quoi. C'est. Moi, chaque fois que je fais faire des devis d'imprimeur pour le magazine, pour d'autres choses, je me confronte à chaque fois quelqu'un qui me dit: Ah putain, on est full, on a du travail à plus que savoir qu'en faire. Et c'est là que tu dis, mais. Malgré les réseaux sociaux, malgré le numérique, malgré tout le monde qui dit que le papier est mort et tout, les imprimeurs, ils ont aucun problème quoi à trouver du boulot parce qu'il y a cette envie aussi de continuer à fabriquer des trucs. Mais après, c'est clair que tu as raison de souligner, c'est à moins de vendre un certain volume de bouquins ou avoir vraiment bien pensé son modèle économique pour que le truc te rapporte de l'argent d'une autre façon, parce que tu vas vendre une expo à côté, parce que tu vas vendre des tirages à côté, parce que tu vas récupérer de la pub à l'intérieur, pourquoi pas aussi. Enfin, il y a plein de modèles, mais c'est vrai que c'est compliqué.
Alors, ouais, tout à fait, c'est compliqué. Surtout que je pense que la tournure du livre aujourd'hui va de nouveau être un peu peut-être modifiée parce que le papier coûte cher. Le papier devient très cher, de plus en plus cher. Transport, enfin l'encre, etc. Bref, les machines, l'énergie pour faire tourner les machines.
Et charges sociales aussi.
Exactement. Et je pense que le livre va devenir de plus en plus, comment dirais-je, un produit de luxe. Ça l'est déjà, parce qu'un bouquin, c'est quoi? C'est entre 30 et 50 euros, on va dire. C'est cher, c'est très cher. 40 euros pour un livre, c'est très très cher. Ça va devenir un produit de luxe, ouais, évidemment. Donc, ce qui veut dire que finalement, moins de gens qu'aujourd'hui vont pouvoir publier, être publié. Ça, c'est clair. Ça va être plus compliqué. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y aura peut-être que les bons sujets, en tout cas les beaux livres qui vont sortir, les livres qui ont été réfléchis, alors évidemment, certainement avec des gens derrière qui ont du talent, donc peut-être moins de place pour les gens qui débutent ou qui veulent peut-être faire un premier bouquin. Bon, après, non, souvent je me trompe parce que souvent les premiers bouquins sont généralement assez bien, bizarrement, mais c'est comme ça. Mais oui, il y a en tout cas peut-être une tendance à aller vers le produit de luxe. Le papier est un luxe aujourd'hui, évidemment. C'est peut-être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Mais on va sans doute, en tout cas, dans cette direction. Ouais.
Et est-ce que tu as cette même vision pour globalement le marché de la presse, dans le sens où tu l'as dit, la moitié des magazines avec qui tu avais bossé ont disparu, ce qui est un peu embêtant pour fidéliser tes clients. Est-ce que à côté, du coup, enfin, est-ce que la répercussion, c'est pas aussi sur notre marché de la photographie de presse, comment dire, pas un reboot, mais tu vois, la vraie méritocratie cruelle et terrible, que seuls les meilleurs continueront à être publiés, seuls les meilleurs continueront à vendre des sujets. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour la photo et la photo de presse notamment?
En fait, ce qui est assez étonnant avec la presse, c'est un peu comme le cinéma, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur le marché de la photographie, enfin les photographes qui arrivent sur le marché de la photographie et qui ne savent pas trop quoi faire, l'idée du reportage, l'idée de faire du reportage, et il me semble, hein, en tout cas je me trompe peut-être, la première idée qu'ils ont, parce que c'est quelque chose qui fait rêver en fait depuis 70 ans, enfin grosso modo depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée du photojournaliste comme ça, qui est, bref, et puis le cinéma l'a aussi très bien raconté, c'est un cliché qui fait rêver, qui continue à faire rêver. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Et évidemment, comme toute loi de marché, c'est pas forcément évidemment les meilleurs en fait qui passent devant les autres, c'est les plus connectés, enfin en tout cas c'est les gens qui sont contactés, qui sont connectés aux autres, c'est les gens qui ont déjà l'habitude de bosser déjà depuis un certain temps avec les magazines, qui eux vont continuer parce que la difficulté peut-être aujourd'hui d'un rédacteur en chef, c'est pas de publier une série, mais c'est de faire confiance en fait au photographe qui va produire cette série. Donc soit tu fais bosser quelqu'un que tu connais pas et tu peux peut-être prendre un risque, et c'est un risque, soit tu fais bosser quelqu'un parce que tu l'as déjà fait bosser depuis 15 fois, depuis 10 ans, et que là, bah, tu as quasiment zéro champ de te planter. Donc ça, c'est peut-être un petit peu ce que je reproche aujourd'hui, évidemment, comment dire, aux acteurs de la presse, c'est-à-dire que c'est assez fragile, hein, assez fragile, c'est-à-dire que c'est un peu toujours et toujours, souvent la même chose. Il n'y a pas de risque, en tout cas, parfois dans certaines séries qui sont publiées. Certes, il y a un cahier des charges, hein, chaque magazine, évidemment, a un lectorat avec un cahier des charges, avec une image à respecter, bref. Mais il faudrait que ça bouge, quoi. Il faudrait que ça prenne des risques, comme le font les Anglais. Les Anglais le font. Les Anglais le font parce que aujourd'hui, travailler en Angleterre, par exemple, on peut être photographe de presse, mais on peut être aussi appelé pour être photographe de portrait. On peut être aussi appelé pour faire, je ne sais pas moi, autre chose, faire une autre photographie. Parce que les Anglais considèrent que ce n'est pas parce que tu es photographe de presse que tu es mauvais ailleurs. Justement, c'est l'intérêt de l'ouverture des Anglais, de la créativité que les Anglais, elle est folle, elle est bien, parce qu'ils sont très créatifs, les Anglais. Et c'est vrai qu'en France, si tu fais ça, tu es certainement mauvais dans autre chose. Ce qui peut être le cas, évidemment, mais ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et voilà, je pense que ça, c'est un petit peu peut-être, comment dire, la complexité aujourd'hui du marché de la presse. Il est assez figé. Mais bon, comme tout marché, hein, évidemment, voilà, c'est souvent et toujours les mêmes, hein, en architecture. C'est souvent les mêmes qui reviennent lorsqu'il y a des énormes chantiers comme des aéroports. Il y a toujours les mêmes architectes qui sont sur le marché.
Ouais. T'as parlé de quelque chose de super intéressant que très peu de gens abordent très peu de gens ont abordé dans ce podcast, peut-être à part un peu Pascal Maître et Ambroise Tézenas, c'est le marché international. Toi, t'as beaucoup travaillé, t'as beaucoup vendu et publié à l'international. Tu nous as parlé de Géo-Finlande, Géo-Russie, etc. C'est quoi ta vision du marché international en termes de photos de presse, et est-ce que c'est un peu comme les autres marchés économiques, c'est-à-dire que en fait nous en France on pense qu'on est qu'on a 80% 90% du marché, en fait on n'a rien. Est-ce que la photo de presse correspond à ça, ou parce que c'est vrai quand on se balade dans un aéroport ou quand on va à l'étranger dans une librairie, moi chaque fois je fais le constat de pas trouver autant de richesses en quantité, tu vois, de magazines différents, ne serait-ce que, à part peut-être un peu l'Allemagne où il y a beaucoup de choses, et les États-Unis, mais après le reste du monde, moi quand je vois tes publications, des fois je me dis, mais où est-ce qu'il a trouvé ce titre-là, taïwanais ou je sais pas où, qui prend des photos.
Ouais, effectivement, t'as raison, en fait, j'avais jamais fait attention à ça, mais effectivement, ouais, dans un aéroport, lorsqu'on se balade dans un kiosque, c'est vrai que souvent, à part, comme tu dis, l'Allemagne, peut-être aussi un peu l'Angleterre, mais quoique, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de titres en France, ouais, c'est vrai. Alors l'Allemagne, ils sont très forts dans la presse dite vulgaire, enfin comment elle s'appelle, la presse à scandale. Ils sont assez forts, un peu comme les Anglais d'ailleurs. On est peut-être un peu moins forts sur ce sujet-là, mais tant mieux. Après la presse internationale, elle est importante. Le monde est grand. Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas un magazine à Taïwan, il n'y a pas un magazine en Russie, il n'y a pas un magazine en Malaisie, enfin bref. Je sais, enfin de temps en temps, je passe un petit peu de temps, pas assez évidemment, mais je prends un pays et j'essaye de savoir ce qui s'y passe. J'essaye de vérifier la presse, s'il y a une presse généraliste, s'il y a une presse photographique, etc. Je tente de temps en temps, j'envoie des messages à ces presses-là pour savoir si ça les intéresse. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a. Je vois, hein, quand mes amis photographes ont des publications à l'étranger, et je me reconnais dans ces publications parce qu'en fait, on a souvent les mêmes titres, on est souvent publié par les mêmes titres. Et ce qui veut bien dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, malheureusement.
Ou il n'y en a pas tant que ça qui ont un budget photo et qui acceptent de le dépenser avec aussi des
évidemment.
Étrangers.
Évidemment. J'ai reçu encore il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, un magazine lituanien qui souhaitait publier une de mes séries. Bon, évidemment, de manière gratuite. Alors, bon, le sujet est un petit peu délicat. C'est vrai que c'est un magazine qui a un an d'existence, je crois, ou peut-être 2 ans, qui a pas d'argent, qui a du mal à publier son impression, sa photogravure. Alors, est-ce qu'il faut lui dire d'arrêter de publier parce qu'il ne paye pas les photographes? Ou alors, faut peut-être l'encourager à continuer et peut-être un jour ce magazine paiera les photographes? Bon, voilà, donc évidemment, j'ai refusé parce que c'est terrible d'être publié gratuitement, quoi. C'est terrible. Enfin, c'est-à-dire que, en l'occurrence, c'était sur une série que j'ai faite en Mongolie, donc il a fallu quand même y aller. Enfin bref, il y a un billet d'avion, il y a un déplacement, il y a un coût. Donc pourquoi je devrais donner mes images, non? Pourquoi y passer du temps en plus, voilà. Donc non, c'est pas possible. Donc je lui ai demandé au moins peut-être de me faire une proposition sur un minimum, enfin voilà, une rentrée d'argent, même minimum, mais que ce soit peut-être symbolique pour que les deux parts soient à peu près satisfaites. Mais non, on ne peut pas publier gratuitement, non, c'est pas possible.
Ouais. Est-ce qu'il y a, un conseil qu'on t'a donné quand t'as commencé et qui t'a vraiment fait ouvrir les yeux sur plein de trucs et dont tu t'en rappelles encore aujourd'hui et que t'aimerais partager avec quelqu'un, notamment peut-être quelqu'un comme toi qui est dans ta tranche d'âge et qui aimerait changer de vie. Parce que, tu vois, après nous avoir écoutés, il comprend qu'il y a encore plein de trucs sympas à faire. Il y a de quoi s'éclater, il y a de quoi passer un temps intéressant encore sur ce genre de trucs. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous?
J'essaie d'être, comment dire, je ne le suis pas toujours évidemment, et puis je ne dis pas que mon travail il est toujours bien, enfin bref, je suis relativement humble envers mon travail, et voilà, je ne me considère pas non plus comme un, hein, bref. Mais j'essaie d'être relativement dur avec moi, et chaque fois que je vois une série qui a déjà été faite, ou une image qui a déjà été faite, qui a déjà été vue 1000 fois, je zappe très vite et je me dis non, terminé, je ne ferai pas ce sujet-là, hors de question. En fait, je me mets d'énormes barrières. Alors ça, c'est un peu peut-être ce que j'ai appris dans la pub. Donc j'ai énormément de barrières. Alors certes, je me limite peut-être à produire plus, mais en tout cas, il est hors de question d'envisager une série si elle n'a pas été... si elle a déjà été faite, il en est hors de question. En tout cas, si elle a été faite il y a 20 ans, évidemment, ça se pose pas de problème. Mais j'essaie d'être très dur. Et quand je vois parfois des séries qui sont des séries peut-être sociales, mettons, avec des images, des cadrages, des choses qui sont déjà vues, mais 4 millions de fois, je me dis, merde, quoi, non, faut passer à autre chose, quoi. Il faut passer. Enfin, la photographie, elle doit être impactante. Je me souviens, en fait, d'un directeur de création dans la pub qui m'expliquait que pour juger l'efficacité d'un film de pub, d'un film de 30 secondes, il se mettait dos à la télé, il écoutait le spot de 30 secondes, et si il se retournait, pour voir les images, donc c'était qu'il y avait certainement quelque chose, certainement quelque chose. Et c'est comme une annonce presse. Alors voilà, c'est encore un petit comparatif peut-être avec mon passé, j'en sais rien, mais par exemple une bonne pub, on n'en voit quasiment plus, c'est bien dommage, mais une bonne pub, c'est une double page avec un visuel et un logo en bas à droite, et c'est tout. Et quand le visuel il est là pour expliquer quelque chose et raconter une idée avec juste un logo, parce qu'évidemment c'est un acte commercial, ça peut être une très bonne pub. Et pour moi, la photo, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est une image, mais elle doit être vachement bien cadrée, tout doit être à sa place, et elle doit faire saliver d'une manière ou d'une autre, peut-être le lecteur, enfin la personne qui la regarde. Le reportage, c'est, pour moi, c'est aussi quelque chose de, comment dirais-je, il y a la part de rêve du voyage, évidemment. Donc, l'esthétisme d'une image, pour moi, est importante. Quand je fais le test comme ça, que je montre des images à des gens qui ne sont pas photographes, qui ne sont pas dans la photographie, et quand je leur montre deux types d'images, ou plusieurs types d'images, 99% des gens vont vers la belle image. C'est comme ça. Il y a pas, c'est pas autrement. C'est comme ça. Et je fais l'exercice parfois avec des étudiants alors qui sont plutôt en art graphique et pas en photo. Donc ils sont qu'ont un recul totalement neutre par rapport à la photo. Les gens vont vers les belles images. Alors, la belle image, c'est une force d'attraction. Et une fois que la belle image, elle est là, évidemment, il faut qu'elle ait du sens, il faut qu'elle raconte quelque chose. Si elle raconte rien, évidemment, c'est pas une bonne image. Ça peut être une belle image, mais c'est pas une bonne image. Mais il me semble que la force d'une belle image esthétiquement parlant, c'est une vraie force. Et alors, si derrière, il y a un message, en tout cas, elle parle, elle raconte quelque chose, elle a de force. Voilà. Alors qu'une image qui peut être forte parce qu'elle raconte quelque chose, mais qui est esthétiquement pas convaincante, je trouve ça moins bien. Voilà. Après ça, c'est mon point de vue.
Ouais. Non, mais c'est carrément pertinent hein, quand on s'intéresse un peu à l'art, tout à fait les beaux-arts. L'art, c'est ce qui. Si on peut encore parler d'art aujourd'hui en 2023, lors des smartphones, etc., c'est que il se passe un truc dans le cerveau des gens quand ils voient quelque chose de beau. On va vers les gens qui sont beaux naturellement, on va élire des politiques qu'on va trouver beaux. Enfin, il y a toujours le fond, mais la forme joue beaucoup et effectivement, tu as raison sur.
Bien sûr, enfin, comment dirais-je, alors je ne sais pas si c'est lié aux beaux-arts, enfin en tout cas à la formation des beaux-arts, mais l'urbanisme, le mobilier urbain, enfin l'urbanisme, l'architecture, le design d'objets, une fourchette, un téléphone, un ordi, un fauteuil, une assiette, enfin bref, une brosse à dents. On se sent, comment dire, on se sent, on va dire, plus confortable. Mieux, en tout cas, on vit mieux avec, ça j'en suis certain, on vit mieux avec les gens lorsqu'on est dans un environnement où le design a étudié les choses et que le but du design, c'est de faire en sorte que les choses, enfin que les objets soient fonctionnels, pratiques, faciles à utiliser et beaux. Et plus ils seront beaux, plus on pourra de nouveau les utiliser et on appréciera leur utilisation. Et là, peut-être que l'aspect de la photographie est peut-être la même chose. En tout cas, pour pouvoir impacter les gens, évidemment, il faut qu'elle parle d'elle-même, il faut qu'elle ait un sens, mais il faut qu'elle soit belle.
Est-ce que c'est pas ça qui explique le fait que, tu vois, visa pour l'image, il y ait autant de gens qui viennent. Moi, ça me choque année après année. Tu vois, de revenir pendant la deuxième semaine. C'est-à-dire que je suis là pendant la première semaine professionnelle, mais j'ai tellement de trucs à faire, tellement de gens à voir que j'ai même pas le temps de voir les expos. Et ce que je fais, c'est que je reviens le week-end d'après, tu vois, quand il n'y a plus les professionnels, quand je suis plus tenté d'aller à la terrasse d'un apéro ou quoi. Et je vais dans les expos, et là, je suis choqué de voir le nombre de gens qui viennent, qui ne sont pas du tout photographes, des gens qui viennent vraiment faire la queue pour aller voir des photos de guerre. Et chaque fois, quand tu écoutes un petit peu, tu tends l'oreille pour voir ce que les gens disent de ça, à chaque fois, c'est « Ah, oh, elle est belle la photo !»« Oh, elle est belle la photo du gamin décapité par terre !»« Elle est belle la photo du bombardement !» Enfin, tu te dis, mais est-ce que c'est pas ça qui fait le côté... Alors, est-ce que beaucoup de photographes, d'ailleurs, quand tu discutes avec eux, tu vois, Chauvel, par exemple, on a eu cette discussion en Ukraine là, dernièrement, où il me disait que il me voyait en train de faire une photo de coucher de soleil avec un char devant, et il me disait, c'est nul, le char il bouge pas, enfin il se passe rien. Je dis, ouais, mais la lumière elle est terrible. Et il me dit, mais on s'en fout de faire du beau. On est là pour raconter la guerre, il faut pas que ce soit beau. C'est
Non,
quoi,
mais
toi, ta vision
évidemment.
de ça?
Évidemment, non, mais la guerre, c'est encore un autre sujet. Enfin, évidemment, on ne peut pas faire du beau avec la guerre. C'est pas le sujet. Comment dire, l'objectif principal de faire des images de guerre, enfin, j'en ai jamais fait, mais je pense que là, j'ai 100% raison, c'est de l'information pure et dure. C'est de l'information pure et dure. Et encore une fois, c'est ce que je disais avant, c'est qu'une image, il faut qu'elle soit évidemment belle. Mais s'il n'y a pas une information derrière, elle n'a pas d'intérêt. la beauté d'une image, elle est là pour impacter une fois de plus l'intérêt d'une image. Mais s'il n'y a pas d'information derrière, non. Alors un char avec un coucher de soleil n'a aucun intérêt, évidemment. Par contre, s'il y avait, je ne sais pas, une quinzaine de chiens en train d'aboyer sur le char, là, soudainement, l'image devient intéressante. Et Visa, oui, effectivement, tu as raison, j'ai entendu ce genre de choses. Et ça me fait grincer les dents parfois, effectivement, quand c'est un cadavre brûlé. Et que, alors, bon, non, les gens ne trouvent pas ça très très beau, mais parfois il y a des images assez, assez difficiles. Et effectivement, les gens trouvent ça beau, enfin l'image, plutôt pas la scène, mais l'image belle, parce que les couleurs sont belles, parce que bref. Oui, ça fait grincer, mais en même temps, les gens qui vont à Visa, en tout cas pour une grande majorité de gens qui vont à Visa, ils n'ont pas la culture de l'image. Ils n'y voient pas forcément. Toute l'information à travers les images. Alors certes, il y a la légende qui est en dessous, mais la description d'une image, il décrypte l'image d'une manière complètement différente que nous. Et nous, l'esthétisme, ou bref, c'est peut-être un second rempart, mais le premier rempart, en tout cas, c'est de l'information. Enfin, c'est qu'est-ce qu'elle délivre, cette image, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Donc, et eux, bah non, pas vraiment, non, c'est plutôt peut-être un deuxième point. Donc il y a de l'éducation à faire, peut-être aussi, dans ce sens-là.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans, dans le sens où, quand tu bosses pour la presse, tu vas te diffuser dans des magazines, dans des supports de communication qui sont censés, eux, toucher le plus large public et du coup avoir un niveau de lecture le plus rapide, le plus efficace, le plus simple? Et là, pour le coup, la partie artistique, esthétique, est-ce qu'elle vient pas prendre le devant? Je dis pas qu'elle devrait, mais en tout cas, est-ce que, économiquement parlant, dans les faits, façon pragmatique, elle devrait pas le faire, tu vois?
Ce que j'ai remarqué, c'est que je parle pas des magazines. Classiques hein, en France comme le Figaro, Paris Match, Géo, qui eux sont des magazines, déjà ça fait très très longtemps qu'ils sont là, donc ils savent de quoi ils parlent, quand ils publient, ils savent pourquoi ils le publient, c'est de l'information, bref. Donc je parle plutôt des autres magazines, de second rang, hein, c'est pas péjoratif, qui, je pense, publieront peut-être des séries plus que d'autres parce qu'elles sont peut-être un peu mieux réussies dans la manière, enfin dans comment dire, parce qu'elles ont peut-être un rendu un peu plus esthétique qu'une autre série. Il y a peut-être de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le lectorat en fait qui est au bout de la chaîne, qui achète le magazine. Donc si il achète le magazine et qu'à chaque fois il y a un portfolio bref, qui ne lui plaît pas parce que le rédacteur en chef ou le chef photo pense que c'est plutôt comme ceci ou comme cela. Certes, il a le droit, mais le lectorat, malheureusement, c'est un peu lui qui décide presque à la fin. Alors, peut-être parfois un peu trop, mais ça, c'est, comment dire, la complexité, enfin, pas la complexité, mais c'est la règle, c'est la règle. J'en vois des publications, j'en vois des séries, enfin j'en vois mon travail parfois au Figaro. Des séries ont été publiées dans le Figaro, j'en envoie certes d'autres pour leur montrer ce que je fais, ce que je viens de faire, et ils ne le prennent pas parce que ça correspond pas en fait au lectorat du Figaro. Et ça je le comprends, donc je me mets pas en run pour ça évidemment. C'est là où la photographie elle est aussi difficile, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait une série, il va falloir en fait s'adapter en fait au magazine, quoi. Donc c'est pas parce qu'on fait des belles images qu'on va pouvoir les publier partout. Non, non, ça marche pas comme ça, malheureusement.
Ah, et c'est pas parce que tu couvres des sujets qui mériteraient selon toi aussi d'être publiés que tu seras forcément publié. Mais ça, c'est une démarche qui est compliquée à faire, notamment pour peut-être un peu plus pour un jeune, parce qu'il y a moins de recul et moins de sagesse, entre guillemets, d'être capable de se replacer, de retrouver sa place et de se dire, attends, Les gens sont pas là pour me faire plaisir, pour me donner de l'argent contre mes photos, pour le fun, quoi. Il y a un intérêt économique derrière. Donc, quand tu vends un reportage, tu deviens un fournisseur, t'es un client. Et du coup, le client, en théorie, il a quand même toujours raison.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai bien connu ça en pub, hein. Évidemment, le client a toujours raison. Malheureusement, il a trop souvent raison. Et lorsque c'est le client qui mesure tout ça et qui prend la décision, évidemment, de publier, et en l'occurrence, de s'adapter à son lectorat, ça peut être parfois un peu trop risqué parce que, du coup, il n'y a plus de liberté. C'est-à-dire que plus c'est restreint, moins il y a de liberté et moins en tout cas l'expression se fait au naturel. Et c'est vrai que certaines séries sont. Alors par exemple, moi j'ai un exemple très clair avec une série que j'ai faite sur les bébés reborn. En fait, ce sont des bébés en silicone, des bébés de 3 mois en silicone. Une série qui a plutôt bien fonctionné, qui avait été projetée à Visa d'ailleurs. C'est une série qui n'a pas été acceptée par tout le monde. Et pourtant, elle a été largement publiée. Mais il y a des magazines, notamment Stern. Alors, ils ont adoré la série, ils ont adoré les images, ils ont trouvé que la série était pertinente et intéressante. Mais pour, il me semble, hein, des raisons éthiques de lectorat, ils ne l'ont pas publiée. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu rageant, surtout que ils sont évidemment. Il publie des histoires, enfin, il publie des scènes de guerre, il publie des gens qui sont photographiés, morts, par terre, calcinés. Et donc, voilà, donc, c'est comme ça. C'était assez curieux, mais on s'autorise à publier des gens morts, voilà, mais par contre, des faux bébés, non, ça peut choquer. Donc, c'est un peu rageant, mais après, voilà, c'est pas moi qui décide, donc je respecte.
Ouais, c'est intéressant. Mais toi qui viens de la pub, tu as vu le film 99 francs avec Dujardin.
Bien sûr.
Tu te rappelles cette scène, mais tellement incroyable, où les deux publicitaires doivent designer une pub pour vendre du yaourt et qui partent dans un spot. Ils présentent le spot de pub devant tous les actionnaires et le big boss. Et le spot de pub, c'est genre deux nanas sur la plage qui résout des équations dans le sable, deux mannequins, tu vois, et puis à la fin. La punchline, c'est de dire quand tu manges ce yaourt, t'es belle à l'extérieur, mais t'es aussi belle à l'intérieur, machin. Et tout le monde est super content, les mecs qui font leur pitch. Et à la fin, il y a le big boss qui dit c'est bon, vous avez fini là votre truc? Ok. Rappelez-moi à qui on le vend ce putain de yaourt? Vous pensez que la ménagère qui achète notre yaourt, elle ressemble au top modèle avec son bikini en train de faire des équations sur la plage? Et tiens, je trouve ça vachement bien. C'est une putain de leçon de marketing, ce truc qui match aussi pour des photographes. Quand tu proposes quelque chose. Si tu proposes un sujet sur les mines de cobalt ou je sais plus quel truc en Afrique géré par Bolloré, un titre qui est possédé par Bolloré, il y a peu de chances qu'ils se vendent le sujet, quoi. Tu vois?
Il y a, ouais, bien sûr, il y a peu de chance, ouais, tout à fait, ouais, il y a peu de chance. Il y a peu de chance, mais, enfin, ou pas, je sais pas, mais peut-être qu'il s'en apercevra une fois que le truc sera publié, j'en sais rien. Mais oui, en fait, tout photographe doit adapter ses séries, en tout cas la conception et la construction ou l'idée de ses séries par rapport à des médias qu'il veut aborder, dans lesquels il souhaiterait être publié. Et c'est ce que je fais. Mais je me rends compte que tout ça, évidemment, a un écueil, hein, c'est-à-dire qu'on se limite et on se met des barrières, évidemment, sur un territoire de créativité. C'est-à-dire que si je veux être dans le Figaro, j'ai intérêt à avoir une image plutôt propre, enfin propre, voilà, esthétiquement parlant ou photographiquement parlant, qui soit claire, limpide. Si je veux être dans le monde M, évidemment, ça n'a rien à voir. Donc c'est plutôt un travail d'auteur avec une image complètement différente. Format peut-être, hein, peut-être c'est de l'argent, enfin bref. Et donc, il faut faire attention parce que comment dire, se limiter et se donner des objectifs comme ça en fonction de magazine et de son lectorat, on se limite évidemment dans sa propre créativité, quoi. Donc moi, je sais que je me limite et que parfois j'envisage d'être un peu plus, de prendre peut-être un peu plus de risques sur peut-être des cadrages ou des façons de voir les choses. Et ben, je ne le fais pas parce que je sais que ça va être peut-être plus compliqué derrière pour pouvoir diffuser et publier. Donc c'est une école, ce n'en est pas une autre. Enfin, donc il faut faire attention. Il faut peut-être de temps en temps s'écarter en fait de cette logique de la logique de cette logique là quoi, de cette logique économique, je sais pas comment l'appeler, c'est pas qu'économique, mais de cette logique marketing peut-être, voilà, et de se dire bon ben non, lâchons-nous, parce que la photographie c'est aussi c'est ça quoi, c'est peut-être d'aller plus loin à chaque fois et de chercher de nouvelles choses, ouais.
Bon, en tout cas, c'est vachement intéressant. Quand on arrive au terme de cette interview, je te remercie. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail, là où tu actualises le plus ton. Est-ce que tu fais partie de ces photographes, je me mets dedans, qui actualisent son site internet une fois tous les 6 ans?
Non, pas du tout. Non, non. Je suis aux aguets, donc je suis toujours d'actualiser mon site. Bon, en même temps, c'est pas tous les jours parce que j'ai pas des publications tous les jours, mais il est mis à jour, ouais, régulièrement, évidemment. C'est important. C'est important. J'ai une newsletter, voilà, qui paraît aussi tous les mois ou grosso modo tous les mois. Il y a eu une période un peu compliquée avec le Covid, mais bon. Elle est mensuelle. J'essaie de maintenir à une information comme ça, mensuelle. Et puis c'est tout. Bon, après, sur les réseaux, évidemment, mais voilà, je suis pas non plus un expert d'Instagram. C'est quelque chose qui m'emmerde profondément. J'y suis comme tout le monde, mais j'ai beaucoup de mal à concevoir l'idée de visualiser en fait une image sur un petit téléphone, enfin sur un téléphone, je comprends pas. Je comprends pas ce truc entre, comment dire, l'esprit de la photographie qui préfère voir des images en grand, en expo, sur des murs, ou en presse, voilà, papier, du beau papier. Et puis en même temps, tout le monde se maintient à poster des images sur un minuscule écran, quoi. Et je trouve ça d'une idiotie pas possible. Je vois pas l'intérêt, quoi. Alors, l'intérêt d'Instagram, évidemment, je le vois, mais comment peut-on juger d'une image sur un petit téléphone? Je ne comprends pas.
Ouais. C'est vrai que d'ailleurs, tu remarques qu'on a tout le temps le réflexe de, surtout nous les pros, d'aller zoomer dans l'image sur le téléphone pour.
Ouais. Surtout que si, enfin, avant que le téléphone n'existe, j'aurais parié, mais je ne sais pas, une fortune, pour que. Enfin, je pense que les photographes à l'époque. Si tu leur avais dit, vous verrez dans 40 ans vos images, eh ben vous les diffuserez comme ça pour les montrer à la terre entière sur un écran qui a la taille de 4 cm, enfin j'exagère, et tu t'aurais dit, mais attendez, mais non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Non, mais c'est. Ouais. Parfois je me rends compte que c'est un peu quand même n'importe quoi.
C'est clair, c'est clair. Et ben merci, et puis on va tous aller te suivre sur Instagram maintenant.
Ok, merci à toi.
Et à bientôt.
Ok, à bientôt, ouais. Ciao, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.